On va dédier le cours Bezrat Hashem à la Hatzlacha de nos Chayalim. Bezrat Hashem Yitbarach, Kadosh Baruch Hu Bemet, il va leur donner la force morale, physique, qui va se tenir derrière eux et que comme on a dit, et on répétera jamais assez, que par tous ces événements qu'on est en train de passer, Bezrat Hashem, que tout l'homme Israël il se réunisse Berdout, parce que c'est ça en réalité tout le problème du Ham Israël, c'est qu'on n'est pas assez Berdout, et que Bezrat Hashem par l'Ardout, alors on va avoir, si Dieu veut, la possibilité de faire venir Mashiach, Bezrat Hashem Yitbarach. La seule chose, c'est que il y a un principe dans. Bonjour. Il y a un principe qui dit Lolitrok à. Il y a un principe qui dit à la grande joie de Soli.
Tu as enfin, pas acheté. Il faut arriver au mois d'août pour. On a mis un an. Ouais.
Tu as pas acheté assez de pain au chocolat, mince alors.
Je retourne, ça sort du four, il y en a encore.
D'accord. Je retourne. Il y a un principe. Oui, non, mais comme j'ai dit, on vous a donné la grande boîte. Nous ici. On a un élément qui nous met l'angoisse, qu'on n'a pas le droit de manger. Quand on la voit, on se dit, bon, tu as encore du chemin à faire, donc ne mange pas. Donc, il y a un principe, Bémet, qui nous apprend une chose, c'est l'olitrok et tacha. Rabbi Nachman, il parle beaucoup, beaucoup de ça. Ça veut dire ne pas presser, d'accord, le temps. Ne pas vouloir être impatient. Et ça, c'est un grand principe en réalité, parce que si il y a des chaises, asseyez-vous, Baruch Haba. Et ça, si on regarde bien, souvent, on a fait beaucoup d'erreurs parce qu'on n'a pas su être patient. La vie, c'est comme un. La vie, d'abord, toute la vie, tout le monde entier en réalité, c'est un grand monde de dimion, c'est un monde d'illusion en fait. C'est-à-dire, tout ce qu'on a autour de nous en réalité, c'est. Hachem, il met des situations, il nous fait vivre toutes sortes de choses pour un seul but. Le but, c'est de, pachout, revenir chez Akadosh Baruch Hu et se rappeler pourquoi je suis venu dans ce monde. Le problème, c'est quoi? C'est que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, lui, il met des situations, d'accord? Il nous fait vivre toutes sortes de choses pour que justement, nous, on revienne, d'accord, à notre essence, c'est-à-dire la Torah. Mais après, il y a justement les épreuves, le dimion, l'illusion, d'accord? Le Yetzer Hara, qui va lui justement faire en sorte que on oublie complètement le but de notre venue sur Terre, parce qu'on va s'occuper avec d'autres choses. Et on avait dit une chose la dernière fois, pour celle qui était là, quand on vit des événements, que des fois on ne comprend pas pourquoi on les vit, et on se demande, mais qu'est-ce que je fais là? La première question qui vient à nous, c'est quoi? Lama. Pourquoi? Et Chachamim, ils nous disent, il ne faut pas dire lama, ela, lema. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je suis venu dans ce monde. Pourquoi, Kadosh Baruch Hu, tu me fais vivre telle ou telle situation? Pourquoi les choses, elles ne vont pas comme moi, j'ai envie? Pourquoi tu ne réponds pas à ma tfila? Et donc, Chachamim, ils viennent, ils nous disent, apprends ce principe. Lolitrok et Asha'a. Ne précipite pas les choses. Il y a un temps pour chaque chose. Et si nous, justement... Et pourquoi, en général, Bémet, je veux précipiter les choses? Qu'est-ce qui va faire que moi, maintenant, je vais précipiter les choses? C'est quoi mon problème? Toi, tu as les bonnes réponses.
Parce qu'on croit que Zipnitnaïf, comme nous, on veut, justement, on se met à la place d'Hachem, en fait.
Le problème, il est quoi? C'est que comme, justement, moi... Je crois que je suis à Kadosh Baruch Hu. Moi, j'ai pris la place d'Hachem. Parce qu'Hachem, je vous rappelle, il est très humble, Hachem. Il est tellement humble qu'il nous fait croire que nous, on est quelque chose. Il nous fait croire que, genre, on agit, on fait, on truc et machin, et que les choses, elles se font par nous. Mais en fait, c'est l'illusion, ça. D'accord? En réalité, c'est à Kadosh Baruch Hu qui nous dirige et qui nous gère. Donc, notre grand problème, en général, c'est quoi? C'est que, comme j'ai l'impression que moi, je peux prendre la place d'Akadosh Baruch Hu, donc, si les choses ne vont pas aller comme je veux, au rythme où je veux, je vais venir, tu sais, comme un boomerang, et je casse tout. Tu détruis. En général, ton manque de patience, il a détruit les choses. On va prendre l'exemple qui nous touche à nous toutes. Shalom Bayit. Tout le monde aimerait avoir du Shalom Bayit, non? T'as pas envie d'être heureuse avec ton mari? T'as envie? T'as envie des fois de pas te bagarrer avec ton mari, que tout se passe bien? T'as envie? On a toute envie que ça se passe bien. On a toute envie que tout se passe super. Seulement, le problème, il est quoi? C'est que tu peux pas construire une maison en 30 secondes. C'est pas possible. Le Beit Hamikdash, ça fait combien de temps qu'on l'attend? Et on est toujours là en train d'attendre. Et on est toujours là en train de construire. Ça veut dire que je dois prendre conscience d'une chose. La phrase « Anachnu arevim zelazé » Nous sommes responsables les uns des autres. Alors, cette phrase-là, il faut que je l'intègre. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous, on est la génération avant Mashiach. Mais quoi, les autres générations, elles n'ont rien fait? C'est que grâce à nous que Mashiach va venir? Non. Ça veut dire que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-arrière-arrière, chaque petit effort qu'ils ont fait, chaque chose qu'ils ont fait, ils ont mis une pierre, en réalité, à l'édifice. Jusqu'à qu'à la fin, d'accord, Mashiach, il va venir et dire, voilà, ça, c'est la génération de Mashiach. Oui, mais les autres générations aussi. Ça veut dire que tu ne peux pas construire, d'accord, une maison. Et nous, les Juifs, en réalité, c'est quoi? Nos maisons, c'est quoi? C'est des Beit Hamikdash en miniature. Tu ne peux pas construire un Beit Hamikdash en 30 secondes. Ce n'est pas possible. Tu te dois de comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Tu ne peux pas presser les choses et tu dois attendre. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire que il y aura des situations, il y aura des chutes, il y aura des montées pour ensuite, à la fin, réussir à construire véritablement. Parce que, tout d'abord, si tu as la réussite immédiate, ben, il y a un problème. Parce que Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il aime, c'est l'effort. L'homme, il est venu dans ce monde pour travailler. Tu n'es pas venu ici pour te reposer, ni pour faire pique-nique. Tu es venu dans ce monde pour travailler. Et ton travail, il va se faire toute la vie, jusqu'à 120 ans. On voit quoi? Le Ari Akadosh, le Arizal, qu'est-ce qu'il a dit sur son lit de mort? Il est mort à 38 ans, comme Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire sur son lit de mort, à la dernière minute, il était en train de... C'est fini, quoi. Ça y est. Qu'est-ce qu'il a dit, ses dernières paroles? Vous savez ou vous savez pas? Mon Dieu, protège-moi de l'orgueil. Le Ari Akadosh qui dit ça. T'imagines le Ari Akadosh, d'accord, ça veut dire c'était un géant, c'était un gadol, c'était tout ce que tu veux. Il vient et il demande à Akadosh beaucoup sur son lit de mort, ça veut dire c'est fini, t'as terminé. Mon Dieu, protège-moi de l'orgueil. T'imagines un peu le Ari qui dit ça? Le travail, il ne va jamais finir. Alta min batzmecha adayom acharon. Ne crois pas en toi jusqu'à ton dernier jour. Ton travail, d'accord, ça veut dire tu vas l'avoir devant toi toute ta vie. Et c'est pas grave maintenant si tu as réussi, pas réussi, c'est pas très important ça. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est l'effort. C'est que tu sois toujours en situation où tu fais un effort et que jamais tu te désespères. Et tout notre problème à nous, il est où? C'est que on a du mal dans la constance et que du fait qu'on voit pas les résultats immédiats, on baisse la tête, on baisse les bras. Par exemple, tu n'étais pas très sympa avec ton mari ces derniers temps. Et donc, bonjour Eva. Bonjour, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hein? Véronique. Véronique. Bonjour, ah ben c'est le nom de ma sœur en plus, ma grande sœur. Comment je peux oublier? Ça va, tu vas bien? Oh, Hachem. Donc, qu'est-ce que je dis?
Comme on n'a pas besoin de
ta vie. Ah ouais. Comme tu n'as pas... Avec le mari, ouais. Ben ouais, mon cher mari. Comme tu n'as pas... Qu'est-ce qu'ils nous font travailler, ces maris? Ma parole. Comme tu n'as pas souvent le résultat, d'accord, que tu escomptes, parce que tu n'as pas été sympa avec ton mari. Alors, un jour, deux jours, six mois, un an, je ne sais pas, tu n'as pas été sympa avec lui. Et puis un jour, tu as la Simone qui te descend, tu dis, bon, il faut que je fasse tchouva quand même. Attends, combien je peux être là en lutte et combien je peux être en guerre? Il faut que je me remette en question. Où est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis tu dis, bon allez, je vais être sympa. Ça se passe, tu vois, dans ta tête. Le soir, ton mari rentre, tu ouvres la porte. Bonjour chérie, comment tu vas? Et puis toi, tu attends qu'il te dise, bien sûr mon amour, très bien, comment? Et en fait, non, le mec il est là, il rentre, même pas il te regarde, il a les nerfs. Tu dis, quoi? Je lui dis, bonjour chérie, comment tu vas? Je lui ai préparé un repas, tout. Et lui, comme ça, il fait. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les bras. Pas de persévérance. Et là, encore une fois, on retourne dans la spirale. Comprends une chose. Rabbi Nachman, il nous dit un message bémet d'encouragement. Tout ce que tu peux détruire, tout ce que tu as pu détruire dans ta vie, sache que tu peux le reconstruire. Donc déjà, pas de panique. Le seul problème, c'est que comme j'ai mis du temps à détruire, je vais devoir mettre autant de temps des fois à reconstruire. Ou plus peut-être. Ça c'est Rachamim, tu sais quoi, Yerachem Hashem. Des fois, c'est, tu ne sais pas ce qu'Hashem il te donne. Mais une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas espérer, d'accord, avoir détruit et tout reprendre en une seconde. Il va falloir un temps. Il va falloir des efforts. Et même si la personne d'en face, donc ton mari en l'occurrence, au début, tu vois qu'il est réfractaire. Il te dit, non, mais tu sais, ça ne sert à rien. Tu m'as cassé, tu m'as brisé, c'est fini. Toi, n'écoute pas ce qu'il te dit. Pourquoi? Parce que on a tous, avant de se marier, un baluchon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des regards là qui trucent. Il y a, on a tous. Non mais tu sais, tu peux regarder tout le monde parce qu'on est tous dans le même. On est tous dans le même bateau, mamie. T'inquiète pas. Comprends une chose. On vient tous avec notre baluchon. D'accord. C'est-à-dire que quand on s'est marié, alors salut, tu vas bien? Quand on s'est marié, nos parents, ils ont fait comme ils ont pu. Nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu pour nous élever. Mais malheureusement, je crois que nous toutes ici, nous ne pouvons pas dire que notre mère était Sarah Imenu et que notre père était Avraham Avinu. C'est comme ça, ce qu'on peut faire. Et je pense que nous non plus, nos enfants diront pas ça. Voilà, c'est tout. On n'est pas Yitzhak. Ni Yitzhak, ni Rivka. Non, écoutez le malasso, tu sais quoi, il faut... C'est bon, c'est déjà pas mal. Donc, Chazé Shalom, justement. Donc, ça veut dire que nos parents, Baruch HaShem, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les kelim qu'ils avaient. Et ça, écoutez bien une chose. Souvent, quand j'ai des gens qui viennent chez moi pour faire leur thérapie, la première chose que je fais, c'est d'abord le shalom avec les parents. Parce que, et ça souvent tu vois que c'est le contraire complètement de la psychologie chez les goy. Le goy, tu viens chez lui, tu dis ouais, je suis pas bien, allez, yallah, ton père, ta mère, ça, il te les a assassinés directement. Il est malheureux. Alors, chez nous, c'est pas comme ça. Nos parents, oui, comme j'ai dit, c'est vrai, c'était pas Sarah, c'était pas Abraham, elle m'a la saute. Mais ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les kelim qu'ils avaient à l'époque. D'accord? Parce que les souffrances que toi, tu as pu avoir avec tes parents, les manques que tu as pu avoir avec tes parents, mais t'inquiète pas, on reproduit ce qu'on a vu. Ce que ta mère, elle t'a fait, c'est ce qu'elle a vécu elle aussi, la malheureuse. C'est-à-dire que même si tu prends conscience, d'accord, de tes manques, jusqu'à que tu vas pouvoir remplir, arranger et faire, eh ben, c'est comme ça, ça va prendre du temps. Des fois, ça peut prendre toute une vie. Donc, déjà, ne pas en vouloir à nos parents, c'est sûr et certain. Donc, quand tu arrives sur la roupa, il faut que tu sois consciente. Tu arrives avec ton baluchon. Ton baluchon, c'est quoi? C'est ton éducation, c'est tes manques, tes peines, tes joies. C'est tout ce que tu es. Mais pense que celui d'en face, ton mari, il vient avec un baluchon, lui aussi, c'est pas le même en général. Donc déjà, il faut essayer de la doune les casse-routes, l'autre. Ça veut dire juger son prochain avec clémence, merci. Quand tu vois que des fois ton mari, il a des attitudes un petit peu bizarres, qui peuvent te paraître à toi bizarres parce que toi, tu n'as pas les mêmes problèmes que lui, d'accord? Ben dis-toi, bon, tu sais quoi? On ne sait pas, peut-être qu'il n'est pas bien, peut-être qu'il a un traumatisme, peut-être, t'en sais rien, chacun ce qu'il a passé. Mais ce qui est certain, c'est que quand on se marie, alors on va se retrouver face à des situations qui vont faire qu'il y aura des incompréhensions. Parce que si tu regardes bien, la plupart des problèmes de Shalom Bayit en général, c'est des incompréhensions. Maintenant, ces incompréhensions, souvent, quand elles se répètent, elles vont casser la personne. C'est des égratignures qu'on a dans l'âme, dans le cœur. Et donc, quand tu es cassé, tu perds un petit peu de ta personnalité, tu perds un peu de ton assurance, tu perds de ta simcha, t'es pas top. Alors, c'est sûr que quand toi, maintenant, tu as décidé un beau jour de te réveiller et de dire, bon, allez, je vais faire tchouva, je vais être sympa avec mon mari, je veux faire, et que tu vas venir chez ton mari et te dire, chérie, je t'aime, lui, il va te dire, ben non, moi, je t'aime pas. Moi, je t'aime plus. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime plus. Ça ne veut pas dire que maintenant, c'est fini. Ça veut dire tout simplement que lui, il a été complètement détruit. Lui, en réalité, tous les problèmes de Shlomo Bayit, de la même manière que toi, ça t'a détruit aussi quelque part. D'accord ? Mais lui aussi, il a été détruit. Il n'est pas insensible à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là ? On baisse les bras, on dit c'est fini, bon, bah tant pis, alors viens, on divorce, on s'arrange, l'avocat, le machin. Non. Non, c'est pas ça la solution. La solution, elle est, c'est de dire, ok, moi maintenant, j'ai pris conscience. Des fois, ça peut être le mari hein, qui prend conscience. Mais bon, nous maintenant, ça se peut, je te promets que ça se peut, j'en ai vu. Donc, mais nous maintenant, on va parler pour nous. Donc maintenant, toi, tu as pris conscience de la chose. Peut-être par un cours de Torah, par un livre que tu as pu lire, peut-être par une connaissance. Tu sais pas la vie, comment Akadosh Baruch Hu, il va te faire que... Hein?
Par une maturité aussi.
Une maturité aussi. Toutes sortes de choses qui font que, ça y est, maintenant tu as compris qu'en réalité, tu as fait des petites bêtises. Alors, déjà, comprends une chose. C'est que même cette maturité ou cette compréhension, d'accord, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a voulu. Il y a eu un temps. Il y a eu un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. Pour construire, des fois, tu as besoin de passer par tout un chemin de vie, d'accord, pour ensuite, c'est-à-dire que tu as eu une chute, tu as eu besoin de cette irida-là, c'est pas que tu as voulu de ça. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait parce que X et Y raison. Tu as eu besoin de cette irida-là pour pouvoir ensuite faire la aliyah. Alors, le principe, il est quoi? C'est l'olitrok et tachaa. Ne presse pas le temps. Tu as pris conscience que tu as fait des erreurs. Tu as pris conscience que maintenant, les choses, elles doivent changer. C'est très bien. Kol hakavod. Mais il va falloir maintenant t'armer de patience. Parce que la reconstruction, elle ne peut pas être immédiate. Ça veut dire qu'il va falloir investir des efforts. L'effort, il faut qu'il soit constant. À tout moment, tu dois être en état d'effort. Pourquoi ? Parce que ton mari, lui, après tout ce qui s'est passé, il est un petit peu, si tu veux, en... Il est dans la... Comment on appelle ça ? Il se méfie. Il se méfie un petit peu. Il se dit, bon, aujourd'hui, elle fait un effort, mais demain, à savoir ce qui va se passer.
Combien de temps ça va durer ?
Combien de temps ça va durer ? Exactement.
Chasse le naturel, il revient au galop.
Exactement. Chasse le naturel, il revient au galop. C'est vrai, mais attention. C'est pas tout à fait, maître. Je vais te dire pourquoi. Parce que notre naturel à nous, notre naturel à nous toutes, ici, c'est quoi ?
Sans qu'il sourit, sans rien, on est content.
On s'éclate, on est... Non, mais tu vois, elle est émette. Bah, au Hachem, elle est émette. Attends, tu crèves de chaud, là. T'as pas chaud ? T'as pas envie de...
Non, mais franchement...
Masgane, mais sors dehors. Donc, notre naturel à nous, c'est quoi ? C'est détente. T'as envie de rigoler, tu rigoles. T'as envie de faire la shonara, yalla, je me lâche. T'as envie de prendre un truc des fois sans permission, yalla aussi, je me lâche. Bon, notre nature, c'est ça, en fin de compte. C'est... Hein ? Alors, allez-nous. Bon. Non, tu connais pas. T'as peut-être pas envie parce que t'as été formaté. Tu comprends ? On est formaté, ne rêve pas. Tu vois, des fois, il y a des filles, elles te disent « Ah, moi, mais chasvé shalom. » C'est pas chasvé shalom, arrête ta carcasse, parce que t'as été formaté, c'est tout. T'as autre chose, tu comprends ? On a chacune un truc, c'est pas... Bon.
Des bonbons.
Ah, des bonbons, machin. Bon, chacune ce qu'elle a envie, écoute. Donc, je sais pas pourquoi je vous disais ça maintenant. Ah ouais, cherche le naturel, il revient au galop. Donc, ça veut dire qu'en réalité, oui, c'est vrai qu'on a en nous, d'accord, des mauvaises midotes. On a en nous, ça veut dire des tavotes. Ça veut dire des passions, on appelle ça des tavotes. Oui, des tentations. On a tous des tentations comme ça qui sont un petit peu malsaines, qui sont impures, qui ne sont pas ce, qu'on voudrait, ce que la Torah nous demande. D'accord ? Mais ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a créé comme ça. Hein. Elle malinsote. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine maintenant de dire que tu n'es pas comme il faut. Hachem, il t'a créé comme ça. Donc, déjà, une première chose, sois consciente, d'accord, que non, tu n'es pas un être parfait. C'est Hachem qui t'a créé comme ça. Et donc, si tu as un problème, va chez Hachem. Va chez Akadosh Baruch Hu. Tu ne pourras pas... Ce qu'on comprend là, c'est quoi ? C'est que tu ne peux pas reconstruire si tu ne passes pas par la tefila. Impossible. Oublie. Parce qu'en réalité, la tefila, non seulement elle va t'aider à reconstruire, mais c'est ce qui va te donner aussi la force. L'arme, en réalité, de l'homme, c'est sa parole. quand on parle de tefila pour celles qui sont là pour la première fois, c'est pas la tefila dans le sidour, d'accord, qu'il faut faire, c'est très bien, mais c'est la tefila personnelle, avec tes mots à toi, dans ta langue à toi, ce que toi tu ressens. Une tefila, ça veut dire que à aucun moment le Yetzer Hara il peut venir attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand maintenant tu prends un sidour, un teilim, n'importe quoi, peut-être tu vas avoir le premier mot dans la tête, tu vois, plus ou moins, mais au bout de quelques secondes, tu vas dévier. Tu vas penser à tout sauf à ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, la tefila, c'est tellement en réalité l'arme du juif, c'est tellement en réalité la geoula du juif, donc bien évidemment que le Yetzer Hara, il va tout faire pour te plomber au moment où tu fais ta tefila. Ne cherche pas, c'est comme ça. Mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a pensé à tout. Il nous a dit, les enfants, la tefila maintenant qui a été instituée, parce que après Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash, alors Bémet, que tout allait se perdre. Donc on a fait des livres. Mais les enfants, n'oubliez pas la tefila, hein, d'accord, originale. C'est quoi? Parlez avec votre cœur. Avraham Avinu, il parle avec son cœur, et Moshe, et tous. Maintenant, cette fila-là que tu vas dire maintenant, d'accord, avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire quand tu vas venir maintenant parler avec Hachem, lui dire tes problèmes, tes manques, tes histoires, tes joies, tes peines. Mais le Yetzer Hara, lui, il ne sait pas. Pourquoi? Il sait pas ce que, c'est pas seulement qu'il ne s'attend pas. Je vais te dire encore plus fort que ça. Pourquoi est-ce que le Yetzer Hara ne peut pas maintenant venir t'attraper au moment où tu vas faire ce qu'on appelle l'aïd des doutes, au moment où tu vas parler avec Hachem?
Il a pas ce cœur.
Ça sort du cœur, mais encore. Hein? Oui, mais encore. Hein? Pourquoi quand tu ouvres un sidour à la base, tu as une petite chose de cœur quand même. Ne nous noircis pas à 100%.
Non, parce qu'il n'y a pas d'ergueil, il n'y a pas d'ergueil.
Ça reste quand même moins...
Ah, parce que ça vient comme ça naturellement, c'est pas comme c'est écrit, on suit la
situation.
Excuse-moi. Je vais te dire quelque chose.
On va réfléchir en fait. Tu n'as pas le temps de s'installer dans notre...
Tu dis beaucoup de vrai.
Il faut changer même de place pour abroger, pour...
Non, d'après, il faut rester, il faut tout y trouver. Ah oui, peut-être. Oui, pourquoi? Parce que peut-être cet endroit-là, il n'est pas bon. D'accord? Mais des fois, par exemple, tu sais qu'il y a un Yann. Rappelle-moi de te dire ça, j'ai peur d'oublier ce que je vais dire. Pourquoi, Bémet, tu es dans le bon, Jenna, dans ce que tu dis, mais on va encore un peu à plus appuyer. La Hidbo des doutes, en réalité, Zeprinat Ruach HaKodesh. Ça veut dire que, comment on dit Prinat? Ça a une... Je ne sais pas si je dois traduire pour moi, Marc, les gens qui ne comprennent pas les cours. Prinat Ruach HaKodesh, ça veut dire que c'est comme si que maintenant tu avais une inspiration divine en réalité. Toi, tu vois, celle qui pratique l'Aïd Bo Dedou, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Des fois, tu te prépares un peu. Tu dis, ah, tu as passé des trucs et tu dis, bon, je vais venir parler. J'ai ça à dire. Alors, tu peux avoir qu'il n'y a rien à dire, on va arriver à ça plus tard. Mais des fois, tu as des choses à dire. Tu vas commencer à parler. Et alors, un truc extraordinaire, tu vas parler, tu vas dévier dans des sujets, des histoires, tu dis, mais quel rapport? C'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout... Mais j'y pensais même pas. Même pas, je pensais à ça, Bichlal. Ben non. C'est Akadosh Baruch Hu qui te dirige. Tu vois ce que je veux dire? T'es manipulé, comme t'es tac, 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 comme un pantin. Donc c'est sûr que c'est, si il y a Prinat Ruach HaKodesh, c'est-à-dire s'il y a un Bémet, ça vient d'inspiration divine, c'est sûr que le Yetzer Hara, il peut pas toucher à ça. Parce que lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer. Toi-même, tu ne sais pas ce qui va se passer. Lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer. Tu es OK ou tu n'es pas OK? Je te vois penser. Ouais, penser, ça va? Tu réponds? D'accord. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, pour te dire ça par rapport à l'endroit où on est des fois, c'est vrai qu'il y a marqué comme ça qu'il y a des fois des endroits où tu viens pour prier. Tu la sens pas le truc, t'es pas bien, t'es pas à l'aise. Alors c'est vrai, il faut changer. D'où on voit ça. On voit que par exemple, on sait qu'il y a des tzadikim qui se sont tenus à certains endroits et que là-bas ils priaient, là-bas ils faisaient leur hypo des doutes. Et c'est bien de se mettre dans ces endroits-là et permettre de prier à ce moment-là. Nous, enfin moi je sais que j'ai fait l'expérience déjà, bon, j'aime quelques fois et tu l'as faite avec moi et de Solidjen quand on était chez le Baal Shem Tov. Chez le Baal Shem Tov, dans la synagogue du Baal Shem Tov, qui est restée en état. Il y a une petite pièce attenante, d'accord, à la grande Schulte, tu as été là-bas ? Il y a une petite pièce attenante, et là-bas, à Bémet, c'est là, il y a même un endroit où c'est là-bas où le Baal Shem Tov, il priait, il faisait son Nidbo des doutes. Et vraiment, quand on va là-bas, donc quand on fait notre voyage et qu'on rentre dans cette pièce, on essaye de faire entrer les femmes comme ça une à une, il y a pas, c'est, tu ressens quelque chose, et Bémet, que j'ai du mal après à les faire ressortir. Allez, il est tard! On n'arrive pas à ressortir de là-bas parce que tu sens comme ça qu'il y a quelque chose de très fort qui se passe et tu veux pas partir, quoi. Donc, c'est vrai, Soïnian, que quand tu sens que t'es pas bien, quand tu fais une tfila dans un certain endroit, bouge. Mais une fois que tu sens que t'as trouvé ton makom, ne bouge plus. Ça, c'est ton makom. Donc, c'est pour ça qu'à la maison, Bémet essaie de trouver toujours un petit endroit où vous êtes bien, où vous êtes à l'aise et où vous sentez que c'est bien pour prier. Donc, si maintenant, moi je comprends que je ne suis pas Kadosh Baruch Hu, je dois l'intégrer une fois pour toutes dans ma vie, c'est comme ça. Mais je dois lutter pour intégrer cette notion. Parce que c'est vrai que maintenant si je te dis, tu crois que tu es HM, tu vas me dire, mais ça ne va pas. Mais c'est sûr, personne ne peut dire, mais en réalité, le Yetzer Hara, il est tellement fort, d'accord, qu'il va te faire vivre, c'est-à-dire la vie va te faire vivre des événements et des trucs, des épreuves, qui font que tu oublies et que tu vois, tu crois maintenant, il faut que tu fasses, il faut que tu agisses, il faut que tu trucs. Oui, c'est-à-dire tu sens que tu contrôles. Ben, quand tu contrôles les choses, qui c'est qui contrôle ? C'est Hachem. C'est-à-dire que c'est dans son subconscient tout ça. Tu comprends ? C'est quoi l'action ? La première action, la vraie action, c'est quoi ? C'est la tchila, c'est dans la parole. C'est la première action que tu dois faire. Si tu n'actionnes pas cette première action, crois-moi, il n'y aura rien. Rabbi Nathan, il disait une chose. Quand je vois une atzlacha, quand je vois quelque chose qui a réussi, si ça a été fait parce que la personne a réussi parce qu'elle a prié, alors je l'envie. Mais si c'est venu comme ça, simple, parce que voilà, matana, c'est une matana en fin de compte, c'est une matana trinam que tu as. C'est pas parce que toi tu es exceptionnel que tu as réussi quelque chose. C'est une matana qu'Hachem te fait, d'accord ? Il te dit, là, j'en vis rien du tout.
Tu peux pas envier une matana ?
Tu peux pas envier une matana. Parce que s'il n'y a pas eu d'effort, comprends une chose. L'homme, il est venu dans ce monde pour travailler. Tu comprends ce que je veux te dire ? Une matana, ben, t'as une matana, c'est bien.
Dit, c'est obligatoire que ce soit synonyme de galérer.
Alors, Soligen a...
synonyme de galérer.
Voilà, Soligen a posé une bonne question.
Un effort.
Quand on dit travailler, c'est un effort. Alors, oui, écoute, je vais te dire pourquoi elle le vit comme une galère. Les copines... Non, mais en général, quand on fait des efforts, on le vit comme une galère. C'est dur, tu le sens, c'est difficile. Les copines, 2 minutes... On va revenir. Les copines, merci Véronique d'être là pour nous faire le CDR. Regarde, quand tu vis, les copines, quand tu vis une situation et que tu fais un effort, alors tout dépend comment tu vas vivre l'effort. Si tu vis l'effort Alpi et Mouna, ça veut dire que tu es consciente que maintenant tout ce que tu es en train de vivre et tout ce que tu es en train de passer dans ce Olam Hazeh, Akol, tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que Akol est Tova, alors c'est détente. Mais si maintenant, bien sûr, c'est un travail, c'est pour ça que je te dis, il faut que tu pries toute la journée, tu dois prier pour ça, Hachem. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à comprendre et à ne pas oublier que Akol est Tova. C'est ça, comprenez une chose, quand on prie, vous savez, je vais vous dire une chose, il ne faut pas se tromper de tchila. La plupart du temps, on va prier pourquoi ? Je t'en prie, parce que les enfants sont en bonne santé, que mon mari est machin, et qu'on ait de l'argent, et qu'on ait ça. Tout ça, c'est ch'touyot. Tout ça, c'est ch'touyot. Parce que tu peux avoir les enfants en bonne santé. Et alors, tu es heureuse ? Non. Tu peux avoir plein d'argent. Tu es heureuse ? Non. Tu peux avoir un mari en bonne santé. Tu peux toi aussi. Tu peux avoir une vie mesoudérette. Tu es heureuse ? Non, laisse tomber, même si t'as pas tout en même temps. Écoute, je connais pas quelqu'un qui a tout en même temps d'abord, ça n'existe pas. Mais Nagib, écoute-moi, que tu es ou que tu n'es pas, d'accord, tu ne seras pas content. Parce que ça, c'est le propre de l'être humain de toujours se plaindre. Et c'est un travail de ne pas se plaindre.
C'est horrible.
Mais oui, c'est ça. Écoute-moi. C'est le Emet, regarde le Am Israël, un exemple flagrant, Am Israël quand on est sorti d'Égypte. Je t'explique, on était quand même en galoute, d'accord ? Ça veut dire on était en esclavage, on est mort là-bas. Il nous a tués là-bas, Pharaon, d'accord ? Bon. Ça y est, Moshe Rabbeinu, il vient. C'est la sortie. On sort avec les vaches, les chiens, les machins, les gosses, la femme, les trucs. Tout le monde sort. Et on prend l'or et on prend tout. Ok, au passage. Ça nous appartenait. De toute façon, c'est Hachem qui a dit. On arrive, on sort, et là, on voit Mamash, Deni, Sinvedini, Flaot de folie. D'accord ? On dit que la servante, à l'époque, d'accord ? Elle voyait des choses que même un gadol, un tana, il n'aurait pas pu voir. Donc on voit Deni, Sinvedini, Flaot, des choses extraordinaires, et on a quand même, d'accord, une qualité de vie. Je vous rappelle, c'est vrai qu'on était dans le désert et que c'était adepte quelque part, mais Akadosh Baruch Hu, il a pensé à tout. Ça veut dire qu'on avait comme une sorte de tapis roulant, d'accord ? C'était super. Nous, les femmes, on était en détente parce que les vêtements ne se salissaient pas, d'accord ? On ne transpirait pas. On n'avait pas besoin de faire le repassage et le reprisage et le lavage. Pas de vaisselle. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tu étais en détente, d'accord ? C'était super. C'était Club Med ? Oui, cachère. Et revue, d'accord ? Attends, mais tu n'étais pas fatigué. Tu n'étais pas fatigué, c'était un tapis roulant. Tu rigoles ou quoi? Attends, il y avait, ça veut dire que c'était super. Il y avait une colonne, d'accord, de nuée, ça y avait Hachem devant, derrière. Tu avais le masgan, d'accord. Alors, tu étais dans le désert, mais tu ne sentais pas la chaleur. Tu avais, bien sûr, tu avais le masgan, donc c'est pas que tu dis j'en peux plus, j'ai chaud, machin. Tu ne ressentais rien. C'était facile.
Mais après,
c'est une histoire.
Après, j'avais une colonne de feu. Ouais. Aujourd'hui, une colonne de feu.
Écoute-moi. Ils ont perçu tout. Et c'est ça ce que je te dis. Le propre de l'être humain, c'est de se plaindre à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on est resté si longtemps dans le désert. De la même manière que pour toi, c'est normal, Baruch Hashem, d'avoir ce que tu as. C'est normal. Bah oui, c'est pareil.
Quand j'ai, ça peut
comprends. Comprends une chose.
Oui,
comprends.
Hachem,
il nous a. Non seulement il y avait des plaies, mais eux, ils n'avaient rien. Écoute-moi, les temps n'ont pas changé. Comprenez bien une chose. La nuée, elle est toujours là. Kadosh Baruch Hu, il est toujours.
Objectivement, on ne la voit pas. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui
okay. Pourquoi
la
des gens pourquoi justement. Oui, bah, au Hashem, on voit tout. Mais non, mais attends, ce qu'elle veut te dire par là, elle a raison, elle est émette. Elle est émette là-dessus. Dans ce qu'elle te dit, c'est que pour elle, tout ce qu'elle a aujourd'hui, c'est une normalité. C'est juste de temps en temps. Tu comprends qu'elle a une petite prise de conscience. Elle se dit oh, merci Hashem, tu vois, t'es sympa. Mais en réalité, tout ce que tu as, c'est la normalité. C'est comme ça, il faut être honnête.
Alors,
mais aujourd'hui aussi, écoute-moi, les temps n'ont pas changé. À l'époque où on était donc dans le désert et que je vous garantis que c'était un hôtel 5 étoiles, d'accord, on avait vraiment, c'était l'hôtel, je te promets que c'était l'hôtel 5 étoiles. Hein? Et ils avaient la manne, ils avaient tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, d'accord, à les barrières. Ils ont commencé à se plaindre. Et à Kadosh Baruch Hu, il y a une chose qu'il ne peut pas supporter. Ça, ce n'est pas la peine, c'est les plaintes. Parce que tu dois te rappeler d'une chose, on ne te doit rien. Et à Kadosh Baruch Hu ne te doit absolument rien. Tout ce que tu reçois, Zenikra, ça s'appelle Matana Trinam. Mais le problème, c'est ça, justement. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans son humilité, d'accord, il te donne pas l'impression à chaque fois que tu fais tzedaka. En réalité, il te donne tout, tu comprends, avec largesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un plus grand Baal tzedaka qu'Akadosh Baruch Hu. Il te donne, tu vois, avec classe. Ça veut dire à aucun moment, il te fait ressentir que tu es la plus pauvre des pauvres. Encore plus. Il te donne l'impression, d'accord, que presque, c'est toi qui lui fais une matana. Qui c'est qui a jamais donné la tzedaka comme ça? Est-ce qu'une personne, elle peut se targuer d'avoir donné la tzedaka à un pauvre un jour, comme Akadosh Baruch Hu nous donne la tzedaka à nous? Personne. On n'a pas ce niveau. On n'a pas ce niveau. Une malin saute. Donc, le Inyan, il est comme ça. C'est que, à tout moment, tu dois te rappeler dans ta. Quand tu fais Idbo des doutes, quand tu parles avec Hachem, laisse tomber toutes les choses matérielles au début. Parce qu'encore une fois, tu auras beau avoir tout ce que tu veux, ça ne sert à rien si tu n'as pas la émouna, que Hakol les Tova. Si tu n'as pas la émouna, que tout est pour le bien. Et qu'il y a un seul maître du monde, et que depuis le début de la création du monde jusqu'à Bezrat Hashem, Yavo Mashiach, et jusqu'à la fin des temps, c'est lui le maître du monde, c'est pas toi. Toi, tu es juste une actrice, d'accord, dans le grand feuilleton. Tu vas venir, tu vas partir, il y en aura d'autres, et c'est ainsi va la vie. Donc, ce qu'on te demande ici, c'est quoi? C'est de faire un effort, d'avoir un effort constant, tout le temps, pour essayer de construire. Et le problème, il est quoi? C'est que nous, les femmes, et Bémet, que on a besoin de beaucoup de force, mais Baruch Hashem, Bémet, Akadosh Baruch Hu nous les donne. Nous, les femmes, on a un grand tafkid maintenant, on a un grand rôle dans ce feuilleton. Nous, on a le rôle principal. Et ouais, elle m'a la saute. Combien que le monde libre, d'accord, c'est-à-dire les goïms de par toutes les générations, ils ont voulu nous faire croire, à nous les femmes juives, que style on vaut rien, on est la souras, et qu'on est les fatmas, et qu'il n'y a que les hommes, il n'y a que les hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Regarde bien, la femme, elle a un rôle primordial dans la famille juive. C'est la femme qui détient tout. Regardez l'histoire de... Rappelez-vous l'histoire de Korach. D'où elle a démarré l'histoire de Korach? Vous connaissez l'histoire de Korach? Ouais. Tout le monde connaît l'histoire de Korach? Vous la connaissez? Ouais, tout le monde, c'est bon? Je n'ai pas besoin de raconter. Ta mère, elle connaît?
Non, je me rappelle.
En très rapide. Korach, c'était le cousin de Moshe Rabbeinu. C'était un grand sadique, c'était pas rien. Et donc, il était marié.
Comment s'appelait ta femme?
J'ai oublié comment elle s'appelait, Emmet. Quelqu'un se rappelle la femme de Korach? Non, ok, je ne sais même pas si elle est nommée. Bon, je ne sais pas. Et donc, il était donc le cousin de Moshe Rabbeinu. Et lui aussi, c'était un tzaddik, c'était quelque chose de grand. Et sa femme, elle a commencé à lui dire, mais dis-moi chérie, je ne comprends pas. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu le maître? Pourquoi ce n'est pas toi? Mais qu'est-ce qui te manque à toi? Tu es grand, tu es beau, tu es fort, tu es intelligent, tu es son cousin, toi aussi tu viens d'une lignée. Pourquoi c'est pas toi? Qui a dit que c'était Moshe Rabbeinu? Bekitsour, la femme de Korach, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à lui faire, tu vois, le tournevis et à le chauffer. Jusqu'à qu'à un moment, Korach, il a dit, mais elle a raison ma femme. C'est vrai ça, moi je suis le cousin, moi aussi je pourrais. Et donc il a commencé à se chauffer lui aussi et il a monté, d'accord, toute une bande contre Moshe Rabbeinu. Et toute la guerre qu'il y a eu, d'accord, c'est-à-dire toute cette histoire qu'il y a eu, qu'ils ont venu et qu'ils se sont, d'accord, plein, d'où elle a commencé, les copines?
La femme de Korach.
Ça veut dire que la femme, elle a justement, regardez ce rôle qu'on a et cette force qu'on a, ce pouvoir qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Tu peux construire, tu peux détruire. Ton mari, il est rien. Il ne faut pas le lui dire, bien sûr. Lui, il faut lui dire, chérie, tu es le plus grand, le plus beau, le plus fort. Parce que lui, il a besoin de kavod. Un homme, il a besoin de kavod. Si tu ne lui donnes pas son kavod à un homme, ce n'est pas la peine. Il n'y aura pas de shalom bayit. Ce n'est pas la peine. On va en parler autre béat, mais ça, rentrez-le-vous déjà dans la tête. Donc, toute la guerre qu'il y a eu avec Korach, elle a débuté, d'accord, à cause de sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme, elle ne travaillait pas ses midot, elle ne travaillait pas à l'intérieur. Elle n'a pas travaillé justement cette mauvaise mida qui est l'envie, qui est la jalousie. Elle n'a pas compris qu'il y a un maître du monde. Moshe Rabbeinu, il n'a rien demandé. Lui, il a été pioché. Hachem, il a dit, bon, toi, tu vas être le maître, toi, tu vas faire. Et c'est tout. Et toi, tu as aussi ton rôle. Pourquoi moi, je ne suis pas elle? Ben, c'est comme ça. Hachem, il lui a donné ce qu'elle a à faire. Pourquoi elle n'est pas moi? Ben, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on choisit? On ne choisit rien du tout. Personne ne choisit rien du tout. Donc, l'envie, par exemple, d'accord? Elle vient quoi? Elle vient d'où? D'un manque d'émouna. Tout vient du manque d'émouna. Donc quand tu vas prier maintenant à Kadosh Baruch Hu, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller lui dire, donne-moi la parnassa, donne-moi les enfants, donne-moi ceci, donne-moi cela, parce que c'est pas la peine, il te donne tout en réalité. Mais si t'as pas la émouna, si t'as pas les yeux pour voir, ben ouais, tu seras toujours en manque. Vous voyez pas, il y a des fois des gens, ils ont comme ça un manque de satiété. Ils ont toujours envie d'autre chose. Ils sont toujours en train de voir ce qui se passe autour. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide à l'intérieur. C'est quoi ce vide? C'est cet émouna justement que Yesh li hakol. Ce sentiment que tu as tout. Un pauvre, il peut se sentir 10 fois plus riche que toi. Parce qu'il a la émouna que toi tu n'as pas. Rappelez-vous, un homme, il peut tout avoir et être le plus paumé de la création. Mais le problème, c'est quoi? Encore une fois, regardez les Yetzer Hara, il est comment? Le Yetzer Hara, et ça, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, c'est très fort. Il y a ce problème du paraître. On vit dans un monde où le paraître est très important. Hier soir, je parlais avec un patient à moi qui me disait mais moi, je vois, je lui parlais comme ça, on parlait d'un autre. Il me fait, mais je vois les gens. Il me fait, je suis pas jaloux. Il me fait, mais je vois les gens, ils ont l'air bien. Je lui dis, oui, ils ont l'air, mais ils ont pas la chanson. Je dis, vous savez, monsieur Intel, moi aussi, quand je vous vois venir, je ne sais pas, vous avez l'air bien, Baruch HaShem. Je dis, vos habits ne sont pas déchirés, vous avez l'air propre, vous avez toujours un beau sourire. Je lui dis, si ce n'est pas moi que je sais exactement ce qui se passe dans votre tête, je dis, mais je dirais, il a l'air très bien, ce monsieur. Il a l'air très heureux. Il me fait, ah non, ce n'est pas possible. Je dis, si, je vous promets que quand on vous voit, personne ne peut imaginer que vous êtes paumé. Je dis, ça, c'est... Bah oui, c'est un paumé. Non, il n'y avait pas sa femme, t'inquiète pas, je ne peux pas être comme ça devant sa femme, t'es folle, devant sa femme, j'ai dit que c'est le meilleur. Donc, comprends, et ça, c'est pour tout le monde, d'accord? C'est El Malasset. Quand je te vois, est-ce que je peux imaginer qu'elle est paumée? Non, elle a une image, elle a l'air bien. Elle sourit, elle est bien, elle a mis son vêtement, son petit truc, elle a mis son déguisement. Et on a tous des déguisements, c'est comme ça. Mais si tu grattes un petit peu, tu t'aperçois que... Parlez fort, hein? Attends, excusez-moi. Les copines, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème là-bas? Vous avez chaud? Ah, il y a Solidgen, boss. Ça va mieux? Allez, on y va, on continue les copines. Qu'est-ce que tu as dit? Écoutez la question de notre copine.
Parfois, oui, mais
écoute-moi. Tu construis son intérieur. Tu construis son intérieur. Attends, 2 minutes.
Elle est où la limite entre pousser son mari ou se pousser soi-même et la femme de
Korach?
C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque, quand on parle de Moshe Rabbeinu, bon, on se dit bien que c'est très bien d'avoir voulu parler de Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, nous, quand on veut pousser notre mari, avec dire vas-y, t'es plus fort, continue, machin. C'est ce qu'on lui fait quand même, quand on veut donner une gamme à son mari.
Oui, mais attention!
Ça par rapport à quelqu'un.
Tu vas pas lui faire un joueur, mais tu vas le pousser à dire ok, mais
alors. Oui? Attends, mais si tu le construis à la guerre, écoute-moi. Chérie, tu es le plus fort, j'ai confiance en toi. Tu es le plus fort, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas arriver, je sais que tu es quelqu'un de bien et tu as des forces en toi. Je t'ai pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle lui a dit, va, bats-toi contre Moshe. Elle a commencé. Écoute-moi, dès que tu vas commencer à voir d'abord ce qui se passe chez l'autre, déjà tu peux être sûr que tu es mort. C'est pas bon. Tu comprends ce que je veux dire? Ne regarde pas. Écoute-moi. Le problème dans ce monde aujourd'hui, dans lequel nous vivons, c'est que on regarde toujours ce qui se passe chez l'autre et on a l'impression que l'autre il est top. Mais je te promets, chez l'autre aussi c'est la même galère. Et malinceau, t'es pas la seule à galérer. Tu comprends? Tout le monde galère. Tout le monde a sa souffrance. Tout le monde vit ce qu'on appelle les bilboulets nefesh. Je parlais de ça hier avec une copine et je lui disais, tu sais, avant Bémet, de tout temps, il y a eu des épreuves. Avant, les gens, par exemple, ils se battaient pour un quignon de pain. On sait que les enfants de Rabbi Israël ben Odesser. Où tu vas, Géna? Ah, tu as le bol. Eh bien, viens là, toi. Ah, non, mais elle est bien. Ok, super, reste là-bas. D'accord, elle est bien. Ok. Et là, tu donnes le dos à Sophie, notre amie. Ça, c'est la lourdeur des Français, tu sais. Attends, je te donne pas le dos. Je... Bon, on s'en fout, de toute façon. Il faut qu'on se le... Hey, c'est ici que ça se passe. Écoute-moi, quand qu'est-ce qu'on est en train de dire les ah ouais, avant les gens ils se battaient pour un quignon de pain. Moi j'ai lu, je sais pas si vous avez, enfin je pense pas que vous avez lu ce livre, il y a un très très beau livre qui s'appelle Écoute Israël. C'est la... Hein? Tu l'as? Tu viens de filmer? Tu as vu comme il est beau? C'est la vie de Rabbi Israël Ber Odesser, le Baal HaPetek, Nanach Nachman Nachman Mouman. Et moi, quand j'ai lu son livre, j'ai dit, mais c'est pas possible, Hachem. Les souffrances de cet homme qui était un tzaddik, et j'ai eu le mérite de le recevoir à la maison, bon, Hachem. Les souffrances de cet homme, parce qu'il était Breslev. Imagine-toi à cette époque, si tu étais Breslev, on te cassait complètement. C'est-à-dire qu'il étudiait au Kollel et on ne le payait pas, la misère qu'on paye au Kollel, on ne le lui donnait, on le lui donnait pas parce qu'il était Breslev. Ses enfants sont morts de faim. Il a perdu des enfants qui sont morts de faim parce qu'il était Breslev. Et moi, Baruch HaShem, je vous dis, je l'ai connu, je l'ai reçu à la maison, il a passé quelques jours chez moi et j'ai connu sa fille. Et quand elle vous raconte, vous dites, oh, mon Dieu, et ça, c'était pas connu. Avant, les gens, ils se battaient comme ça, tu vois, pour un quignon de pain. Mais ils avaient une force. Ils avaient une force mentale que nous, on a perdue. Aujourd'hui, c'est quoi en réalité notre épreuve à nous? C'est quoi notre épreuve principale? C'est ce qu'on appelle les bilboulé nefesh. Comment on dit bilboulé? La perturbation de l'âme. On est perturbé dans nos âmes. Regardez, c'est un constat malheureusement. Les hôpitaux psychiatriques n'ont jamais été aussi pleins et ils marchent de folie. Les psychologues, thérapeutes et coaching et machin et tout ce qu'on peut exister, ils sont pleins à craquer. D'ailleurs, le coaching, putain, comme ça, vous séchez. Hein. J'ai une copine, elle a étudié le coaching chez un truc Riloni là-bas à Tel Aviv. Elle me dit, c'est marrant, ils n'arrêtent pas de parler de Rabbi Nachman. Je dis, bien sûr, c'était le plus grand coach qui puisse exister. Donc, la Torah, c'est un coach. Si tu as la Torah, c'est bon, tu n'as pas besoin de tous ces trucs. Donc, les coachs, les machins, ils sont pleins à craquer. D'accord? Combien de personnes qui prennent des antidépresseurs? Combien de personnes qui se suicident? Combien de personnes qui ont la guerre? Combien? Ça n'arrête pas.
C'est dû à quoi?
C'est dû à un manque, à une iridat adorote qui est due à un manque d'émouna. C'est dû à une baisse, une descente des générations, c'est-à-dire dans la spiritualité, qui est due à un manque d'émouna. Parce que on s'est laissé prendre un petit peu, si tu fais un peu beaucoup même, par le problème de l'assimilation. Je vais te dire une chose. La plus grande Shoah, d'accord? La plus grande Shoah, nous sommes en train de la vivre. C'est l'assimilation. Parce qu'il marche chez Mam, d'accord? Il a tué 6 millions de juifs. C'est vrai, ils sont partis. Mais pour la plupart, il n'a pas tué leur âme. Nous, ici, on vit pire que ça. Nous, on est en train de nous prendre notre âme. Et quand un homme juif, d'accord? Parce que l'essence même du juif, c'est l'âme, c'est la judaïe, c'est la Torah. Quand on vient et qu'on te prend ta Torah, mais t'es morte. T'es morte, tu ne sais plus où aller. Et ça, attention, je veux que ce soit clair dans vos têtes. Ne croyez pas que tous les bilboulés moires, d'accord, c'est-à-dire tous les bilboulim, les perturbations de l'âme, elles se trouvent à Tel Aviv, à Ranana, à Herzliya, à Eilat et je ne sais pas où. Même en plein Mea Shearim. C'est-à-dire, ne vous laissez pas avoir par une image, par le paraître. On a dans notre Keila, à Pisgat Zev, un pharmacien. Et Baruch HaShem, après quelques années où Bémet, il a compris qu'il fallait changer de quartier parce qu'il abîmait ses yeux à chaque fois dans l'endroit où il était, Baruch HaShem, HaKadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il ait eu un poste à la pharmacie donc de Geoula. Geoula, c'est le quartier orthodoxe de Jérusalem. Mea Shearim, Geoula, pour celles qui connaissent. Et il disait à mon mari, une fois, je l'entendais parler, il disait, c'est fou le nombre d'antidépresseurs que je vends dans cette pharmacie. C'est incroyable quand même. Alors c'est vrai, peut-être que je vais tout à l'heure faire une bonne presse. Mais, non, mais on n'est pas là pour se mentir. Pareil, mais c'est parce que, exactement. C'est parce que tout le monde est touché. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Tout le monde est touché. Tout le monde a un problème de Emouna. Toutes les guerres que nous vivons, c'est des guerres en réalité d'Emouna. Tout le monde là, ça veut dire... Et ça, c'est important, si vous voyez que maintenant, je suis en train de vous parler. Pourquoi il y a tellement de haine, en réalité, entre religieux, pas religieux, et toutes ces guerres comme ça, un peu fratricides? Pourquoi? Parce qu'on a un manque d'émouna, parce qu'on n'est pas en shalom avec nous-mêmes. C'est ça le problème. Quand je ne suis pas en shalom avec moi-même, alors je vais être intolérante, je ne vais pas supporter que l'autre il est différent de moi, et l'autre il ne supporte pas non plus, il a ses problèmes. Et c'est... Donc, on vit tous aujourd'hui un problème majeur, c'est les bilboulim de l'âme, d'accord ? Ça veut dire les perturbations de l'âme. Et donc, quand maintenant, moi je vais parler chez Akadosh Baruch Hu, ma tfila essentielle, ça doit être une tfila qui est dirigée vers ma spiritualité, pour ma spiritualité. Hachem, aide-moi à l'arzor bitchouva. Et si je veux pousser plus, aide-moi à vouloir l'arzor bitchouva. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, en réalité, je n'ai pas envie de l'arzor bitchouva. Je suis bien, je suis détente. Je n'ai pas envie, c'est trop pour moi. La matérialité qui m'entoure, donc mon enveloppe, d'accord, corporelle, elle a le dessus sur ma neshama. La preuve, c'est qu'on est tout le temps attiré par les avérotes, on a du mal, c'est une lutte incessante. Tu comprends? Donc, ça va être le principal en réalité de ma tfila. Abba, aide-moi à l'arzor bitchouva, aide-moi à prendre conscience, aide-moi à vouloir, aide-moi à rester comme ça, toujours dans cet esprit où je crois en toi, j'ai conscience que tu existes. Si Bémet, maintenant moi, je travaille ma émouna, et que toute ma tfila, elle va se concentrer là-dessus. Après, tout ce qu'il y a autour, c'est de la rigolade. Puisque ma perception, ma vision de la vie, elle va changer complètement. Pitom, je vais tout comprendre. Pitom, en réalité, je vais vivre, d'accord, avec une prina, d'accord. Je ne sais pas comment on dit prina en français, ça m'embête. Non, ce n'est pas un choix. Avec une prina, qu'il ou moi, maintenant, je vis ma shiar. Une sensation, peut-être, ok. Ça veut dire un niveau comme ça. Oui, c'est comme si maintenant, moi, je vivais au niveau de ma chair, en réalité.
Mais tu ne peux pas vivre, en tout cas, moi, je n'arrive pas à vivre ce que tu dis, mais pas continuellement.
Qui c'est qui peut se targuer de vivre comme ça? Ça veut dire, ça y est, tu es une tzadikette. Alvaï. On voudrait bien. Qui ne voudrait pas avoir la émouna à Bémet? Levez le doigt, celles qui ne veulent pas avoir la émouna. Regardez, personne. Ah, fais attention, toi, hein.
C'est tout en fait.
Tu comprends? Tout le monde voudrait vivre la émouna.
C'est important parce que des fois, la personne, quand tu dis ça, on devrait croire qu'on devrait vivre comme ça, mais les gens qui pensent qu'on ne peut pas vivre comme ça tout le temps.
Mais même ça, écoute-moi, tu n'as pas d'échec, l'échec n'existe pas.
C'est important de préciser, bien sûr. Pas tout le temps que tu peux le vivre.
Tu ne peux pas vivre comme ça constamment, tu ne le supporterais pas. Tu sais qu'il y a des tzadikim, il y a des très grandes tzadikim, d'accord. Rabbi Nachman, par exemple, il y avait des fois, tu sais, ils étaient comme ça tellement, mais pas que le Baal Shem Tov, beaucoup de tzadikim, ouais. Ils étaient comme ça, tu sais, en itlavout, ils étaient comme ça, ils s'élevaient spirituellement, ils donnaient des cours de Torah. Il y avait des fois tellement... Ils commençaient à se déconnecter de leur corps, qu'ils allaient mourir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Hop, ils tenaient la table. Ils se rattachaient à une matérialité. Tu comprends ce que je veux te dire? L'échec n'existe pas. Je vais te dire pourquoi. Si, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. À partir du moment où nous partons du principe que à Kol Mishamayim, il n'y a pas d'échec. Tu as fait l'effort. C'est ce qu'on te demande. On te demande de faire l'effort. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi ou que tu penses que tu ne vas pas réussir alors que tu es dispensé de l'effort. Tu comprends ce que je veux te dire? À Col, qu'est-ce que tu as? Dans tout, tu dois faire des efforts. Dans quoi tu n'es pas d'accord?
Dans tout, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas les efforts qui comptent, je dis aussi.
Regarde, je vais te dire quelque chose. Imagine maintenant, je vais te dire, tu as des enfants. Regarde, imagine maintenant, je vais te dire, voilà, tu as eu un enfant, Baruch HaShem, allez. Maintenant, je te dis, tu sais quoi, je viens, je suis devin, et je te dis, tu sais, ton enfant, l'enfant des Palestiniens, pas nos enfants, l'enfant du Palestinien d'en face, ça va être un grand voyou et un grand meurtrier. Tu dis ça à la mère. Oui, lui, il va être content, c'est vrai que c'est pas un bon exemple. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Elle va dire, ah ouais? Bon, bah alors, je vous laisse. Bon, bah, je m'en occupe même pas. Mais non. En mazal et Israël. Il n'y a pas une chose où tu dis, voilà, ça va être comme ça et c'est fini. Tu dis, bon, ok, tu sais quoi? D'accord, mais moi, je vais quand même essayer. Je vais essayer de faire quelque chose. Et tu sais, par le mérite de cet effort, c'est sûr que tu verras des résultats. Tu comprends ce que je veux te dire? À aucun moment...
Mais pas changer. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas... Le problème, c'est quand on dit ça, on s'attend à des résultats. Si on n'en a pas, du coup, remettons en question...
Si tu n'as pas de résultats, écoute-moi. Écoute-moi. D'abord, je vais te dire, qu'est-ce qu'on a dit? Les résultats, c'est comme l'histoire qu'on a dit tout à l'heure, d'accord? On attend le Mashiach et on attend le Bet Amigdash, d'accord? Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, machin, ils ont mis des pierres et des pierres, ils n'ont pas vu le résultat. Mais ce n'est pas grave, ils ont participé à la construction. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc toi maintenant, tu vas mettre une pierre, tu vas mettre encore un effort et encore, mais c'est sûr qu'il y aura quelque chose. Nous, on t'a demandé une chose, une seule. Ce n'est pas parce que tu penses que tu ne vas pas réussir à faire une chose que tu es dispensé de la faire. Tu comprends? On ne sait pas. Je ne pense pas que je vais être une tzadikette un jour. Alors quoi? Parce que je ne vais pas être une tzadikette, je ne fais pas la Avodat Hashem? Non! Je fais ce que je peux. Tu comprends? Une femme, par exemple, elle n'est pas de Sanoa. Tu n'es pas de Sanoa. Alors quoi? Une fois, tu as l'occasion de mettre un foulard. Tu ne vas pas le mettre parce que tu dis, ouais, ben non, de toute façon, je vais l'enlever dans 10 minutes. Mais non, on s'en fout! Ces 10 minutes-là, elles sont comptabilisées! Peut-être que ces 10 minutes-là, ils vont te sauver la vie, t'en sais rien. Tu comprends, le Inyan, t'as fait un effort. Tu fais Shabbat, une fois. Tu sais que le Shabbat d'après, tu ne vas pas le faire. C'est pas grave, fais-le maintenant. Tu ne sais pas en réalité cet effort-là, où est-ce qu'il va te mener. Tu comprends? Donc, on doit toujours faire l'effort. Et c'est ça, en réalité, notre Inyan dans le Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, ce n'est pas quelque chose que tu auras comme ça, servi sur un plateau d'argent. Oublie! Le Shalom Bayit, ça va être des efforts. Et comme on dit, yad ala dofek, tout le temps. Toujours avoir la main, le doigt sur le pouls. À aucun moment tu peux dire, c'est bon, j'y suis arrivée. Genre aujourd'hui avec ton mari, ça s'est bien passé. Tu dis, bon, ça va, c'est bien, je suis en détente. Non. Effort. Parce que tu sais pas. Le type, il est bien le matin. Il revient 2 heures après, tu sais pas ce qu'il a. Il a tourné, toc. Ça attrape la crise, dit, j'en ai marre, je veux partir, je veux faire... Bon, déjà, toi, comprends, lui, il est mes boules balles, le malheureux, il est malade, d'accord? Il n'est pas bien dans sa tête. Bon, Dieu est grand.
Tfila.
C'est tout. Rak tfila. Et toi, par contre, ne fais pas l'idiote. Parce que la naturelle, ça va être quoi? Ah, comme ça, il m'a fait, bon, allez, j'en ai marre, je laisse tout tomber. Ben non. Toi, tu dois être plus intelligente que ça. Toi, tu dis, bon, pas de problème, chérie, je comprends. Dans ta tête, tu dis, ok, je comprends, il n'est pas bien. Tu continues l'effort. Continue à être sympa, continue à investir, continue à faire, ça va passer, tout passe.
Dans la prière que tu formules, soit pour ton mari, tes enfants, n'importe qui, est-ce que tu as le droit d'exiger le changement de l'autre?
Attends, exiger d'abord, on n'exige rien.
Non, exiger dans la prière, c'est-à-dire
de demander que ce Bezrat Hashem, si Dieu veut qu'on est en Matanatrinam, que ton mari va changer. Alors, je vais t'expliquer une chose. Il y a le principe que quand on se marie, on a un problème, nous toutes, d'accord? C'est qu'on pense que nous, on est bien, et lui, il n'est pas bien. Attends, 2 secondes. Donc, nous, oui, c'est le maître. C'est-à-dire, ça va te prendre du temps en général pour comprendre que toi aussi, t'es tordu. Mais bon, pas grave. Donc, toi, nous, on a l'impression que nous, on est bien, et que c'est lui qui doit changer. Toi, tu dois d'abord demander à Kadosh Baruch Hu, d'abord toi, de changer. Maintenant, si toi tu as changé véritablement, maman, tu as fait un travail sur toi, sur tes midot, c'est un travail de l'intérieur, et je vous dis un truc, vraiment, d'accord? Ne croyez pas que parce que vous avez changé un petit peu, vous avez fait des petits efforts, que ça y est, toutes les situations, elles vont se rétablir. Le changement, il va prendre des années. Il y a marqué, si tu es venu dans Solamazé pour changer une mida, d'accord, un trait de caractère, alors c'est déjà pas mal, si tu as réussi, d'office tu réussiras peut-être pas. Donc, mais c'est pas grave. T'as fait l'effort, on viendra pas te dire, mais dis-moi toi, pourquoi t'as pas fait ça et t'as pas... J'ai fait l'effort, Hachem, et tu sais quoi encore mieux que ça? Tu sais c'est quoi l'effort? Je vais vous dire, c'est exceptionnel. Mais attention, hein, ça veut pas dire que vous allez rien faire. L'effort, c'est de demander à Hachem. C'est ça l'effort véritable. L'effort véritable, il se trouve dans la tfila. Pourquoi? Parce que je suis consciente que moi, toute seule, j'y arriverai pas.
Quand tu viens vers Hachem, tu l'as dit, quand tu lui as demandé de l'aide déjà,
c'est tout. Hachem, lui, il viendra à 120 ans. Hachem, il te dira, dis-moi, pourquoi tu n'as pas été gentil avec ton mari? Pourquoi tu n'as pas fait? Si toi, tu lui dis, mais attends Hachem, mais moi j'ai fait l'effort, je t'ai demandé de m'aider. Après, qu'est-ce que je peux faire?
Non, pour moi, tu ne m'as pas répondu. J'ai compris.
D'accord.
D'accord, là c'est clair. Mais malgré tout, une femme, elle peut avoir une conscience du travail que son mari doit faire aussi sur lui-même. Ça peut lui arriver.
Bien sûr.
Donc, est-ce qu'elle peut exiger?
Demander, oui, à Hachem, que Bezrat Hachem, son mari, fasse tchouva? Bien sûr. Bien sûr. Quel est le plus grand signe d'amour qu'une femme, elle doit avoir pour son mari? Prie pour ton mari.
Elle m'a dit que c'est intéressant dans ce cas-là.
Écoute-moi. D'abord, écoute-moi. Je vais te dire autre chose. Sois honnête. Tout est par intérêt. Même ce qu'on fait avec Hachem. Tu comprends?
C'est sûr que
bon. Alors, oui. Donc, alors c'est tout. Ça veut dire, même si au début c'est pas sincère, ça viendra. Oui, tu peux dire, mon mari, par exemple, tu vois Hachem, il fait comme ça et comme ça et comme ça, et moi ça me met les nerfs, et moi ça me convient pas, et moi j'aime pas. Hachem, je t'en prie. Fasse que mon mari puisse faire tchouva sur ce masse. Fasse que mon mari... Bien sûr, regarde une femme, par exemple, d'accord? Son mari se drogue. Aujourd'hui, c'est la mode. Les hommes, ils prennent des joints, tac, tac, et ils se détendent, ils se machin. Bon, encore, tu vois, ça, en réalité, c'est parce que les malheureux. Encore une fois, ils sont perturbés dans leur âme. Ils sont perturbés, tu comprends? Ils savent plus où ils en sont. Moi, combien de fois j'ai des hommes chez moi, ils viennent, ils me disent, j'ai besoin, ça me détend. Moi, je lui dis, mais si vous saviez la détente, comment vous allez la payer après? Tu comprends? C'est tout, parce que tu vas la payer à la fin du compte. Il y a une addition à payer. Haine. Alors. Ça, bien sûr que tu peux demander à Hachem.
Tu peux le demander vis-à-vis de ton mari, de tes enfants, mais au-delà de ça, est-ce que tu...
Tu peux prier pour la Chazara Bitchouva du clan d'Israël, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. C'est ça, c'est grand. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, d'abord tu pries pour le clan d'Israël, après pour toi. Il y a marqué que tu seras répondu en toi premier. Donc si par exemple maintenant ton mari, disons, que Dieu préserve, il se drogue. Bon, et que c'est quelque chose que tu as conscience que c'est un problème. D'accord? Tu n'es pas d'accord, toi?
Ah.
Non, je te voyais me regarder bizarrement. Ah, les femmes aussi, elles prennent, bien sûr. Les femmes aussi, elles prennent des joints, bien sûr. Tout le monde. Bien, tu sais quoi? Moi, quand j'ai entendu ça la première fois de ma vie, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Leïster, moi, j'avais l'impression que c'était chez les goyim, les zonards, tu sais, la drogue, les machins. Je ne savais pas que chez nous, les juifs, ça marchait.
Ils n'appellent pas ça de la drogue.
Ouais, ils appellent ça de la plante.
Ils me diront, ce n'est pas grave, oui. C'est là, t'as pas la santé, etc. En même temps, c'est pas la pathologie.
Ah, c'est pas mieux.
Non, mais je dis pas que c'est pas plus dangereux, c'est peut-être moins de gens pour être en plus mauvaise santé.
Tu es amplement d'accord avec toi. Écoute-moi. 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 Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoute, écoute, écoute. Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoute, qu'est-ce qu'elle a dit? Écoute bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, à partir du moment, une femme, des fois, elle prend conscience. D'accord? Écoute bien. C'est très fort ce qu'elle a dit. Parce que, ici, par exemple, en Israël, d'accord, on a conscience que la drogue, enfin, je pense quand même dans certains milieux en général, on a conscience que la drogue, c'est pas très bon. Justement, les joints, c'est pas bon. Donc, on va faire un effort, on va faire un travail, on va prier, on va faire pour que le mari l'arrête de prendre. D'accord. Ça, c'est sa conscience à elle. Dans sa conscience à elle, elle voit pas le problème de la cigarette. Toi, tu le vois. Écoute, maintenant, tu vas changer de pays. Tu vas aller à Amsterdam. Là-bas, c'est la détente. Là-bas, presque un enfant, tu vois, pour sa bar mitzvah, on va lui dire, tiens, chérie, prends un joint. Et prends plus, peut-être. Et il ne voit pas le problème, c'est-à-dire c'est autorisé.
Enfin, c'est comme chez nous aujourd'hui, et surtout dans les papas protectifs, dans les familles religieuses, un enfant, on va dire, tiens, prends un petit whisky, ça va faire du bien, chérie, c'est la simcha de Shabbat.
Un petit whisky? Ouais, je suis d'accord avec toi. Un petit whisky?
Whisky.
Ah ouais, ça existe.
C'est pour des gosses plus jeunes.
Ah ouais?
C'est la simcha de Shabbat.
Ah ouais?
Parce que le vin, ça détend, parce que l'alcool, ça détend.
Ah ouais. Bon, bah alors voilà. Alors voilà, ça veut dire chacun sa conscience. Écoute-moi, chacun sa conscience. Mais attention. Tu es alcoolique, toi? Écoute une chose. Je vais te dire une chose. Ça me rappelle une notion que Rabbi Nachman, il nous dit, et tu vois, c'est très important. Il te dit comme ça, hein, ma Torah, et c'est vrai que quand ceux qui ont lu un petit peu les livres de Rabbi Nachman, tu peux les interpréter d'une manière très, très philosophique, très détente, c'est-à-dire tu peux faire des choses des fois un peu bizarres même, d'accord? Parce que tu sais, à force de te dire, c'est bon, vois le point positif qui est en toi, ne cherche que le bien, et Hachem y t'aide. À ce moment-là, tu vois, tu peux dire, bon, ça va, je suis détente, Hachem y m'aide, machin, et vas-y, je me lâche. Attends. Mais... Bien sûr, en plus, mais Rabbi Nachman, il vient, il te prévient. Bien sûr, la cocaïne, bien sûr, il y en a plein. Maintenant, Rabbi Nachman, il vient et il te dit une chose. Ça veut dire qu'il t'a donné en réalité, d'accord? Rabbi Nachman, il t'a donné le médicament avant la maladie. Il connaissait sa Torah. Qu'est-ce qu'il te dit, Rabbeinu ? Il te dit, tu peux interpréter ma Torah de toutes les manières que tu veux. Ça veut dire déjà d'office, il te fait savoir, je sais, tu peux te détendre très vite avec ma Torah. Tellement elle est positive, tellement on a besoin de ça. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix. Mais il te dit, mais attention, ne bouge pas des arba amot de la halakha. Des quatre coudées, comme ça on dit arba amot, des quatre coudées de la halakha. Ça veut dire, tu peux te détendre tant que tu veux, tant que tu restes avec la halakha. Tu peux pas faire ce que tu veux. Mais ça, non, ça c'est par rapport à la santé, mais moi je te parle maintenant à tout. Tu comprends? Parce que on aurait tendance, tu comprends, des fois à dire bon, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Tant que, d'accord, tu peux te détendre, voilà, tu peux te détendre tant que tu veux. Mais il ne faut pas que tu bouges de la halakha. Si tu as bougé de la halakha, ta détente n'est pas une bonne détente. Et ça revient un peu à ce que tout à l'heure, toi ou ta, une des deux vous avez dit. Mais jusqu'où on peut dire tu es le plus fort, tu es le plus grand? Tant que ça ne bouge pas de la halakha, ça veut dire que maintenant tu n'as pas fait du lachonara, tu n'as pas fait machin. Oui, tu te dois de renforcer une personne. Oui, tu te dois de lui dire c'est le meilleur et tout ça. Mais si maintenant tu as bougé de la halakha, ton coaching n'était pas un bon coaching. Tu as compris l'histoire? C'est comme ça que ça marche. Nous, on doit comprendre une chose. C'est sûr qu'on a besoin, surtout Bémet, dans notre génération, à nous aujourd'hui, on a énormément besoin, d'accord, de remontants. Toute la journée, tu vois bien d'ailleurs la Torah, d'accord, aujourd'hui, que ce soit dans les écoles juives, religieuses, même les divrei Torah, les rabbinis, mais machin. Aujourd'hui, d'accord, il n'y a plus, tu vois, cette Torah un peu dure. On te dit, t'es obligé de faire ça, et si tu ne fais pas ça, et tu... Le mec, tu lui dis, tu ne fais pas ça, il t'arrive ça. Il se lève, il dit, bon, bah, tu sais quoi, je m'en fous, je me lève, je m'en vais. C'est bon ou pas? On n'a plus la force de supporter ça. On n'a plus la force, c'est le mal à saute. Aujourd'hui, comment on te dit? C'est pas grave, t'inquiète pas, Léat.
Elle est où la vérité?
C'est vrai, c'est que c'est pas grave, Léat. C'est la vraie vérité. Mais attention,
génération.
Ça, d'abord, c'est dans notre génération. Parce que nous, maintenant, on n'a plus la force. T'as plus la force!
C'est-à-dire qu'à la base, Hachem, il voulait qu'on le fasse
Non, pas du tout. À la base, ça n'existe pas. À la base, ça n'existe pas que tu puisses te détacher d'Hachem. À la base, tu aimes Hachem d'une façon. Je te parle pas. Non, mais tu c'est pas ça la base, mamie. Mais c'est pas ça la base. La base, c'est Adam Vechava. La base, c'est Adam Vechava. C'est ça la base. La pomme, elle est loin, la pomme. Eh, hey, c'est pas la pomme, hein. C'est beaucoup plus grave que ça. J'étais pas là. Non, mais Bédra, ils vont être en ligne, mes cours, bientôt. C'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. Écoute une chose. À la base, attends, juste je termine, et après j'arrive sur toi. À la base, ta neshama, d'accord, parce qu'on a tous une neshama, ta neshama ne peut pas supporter la avera. Ta neshama, elle peut pas. Et chaque fois que tu fais une avera, chaque fois que tu vas contre les principes, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu, tu étouffes ta neshama. Et écoute bien, vous allez avoir la réponse maintenant à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand tu étouffes ta neshama, léat, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ta neshama, tellement elle n'a plus d'oxygène, c'est les bilboulets moar, c'est la dépression nerveuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu comprends, les gens, ils sont tous malades. Parce qu'on s'est étouffé tout seul. Et dès que maintenant tu vas commencer à donner un petit peu de Torah, un peu de Simcha, un peu de... Ah, je me sens bien, tiens, je me sens bien, un peu de gaieté, un peu de... Mais c'est pas de la gaieté, c'est parce que tu as redonné à ta neshama un petit peu d'oxygène. Tu comprends?
Parce qu'ils
n'ont
pas
l'aïmouna. Écoute-moi une chose. Écoute-moi. Écoute-moi. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est de l'intérieur. Regarde, je te pose une question. D'accord? Toi et moi, on a la tête couverte. On est à peu près. Ah, c'est tes cheveux, je peux pas croire. C'est une perruque. Alors là, j'allais dire vraiment.
Okay. Non,
elle a une belle perruque. On a la tête couverte, on est un peu de snoot, on essaye, machin et tout ça. Est-ce que toi et moi, on peut dire qu'on a l'aïmouna à 100%, 24 heures sur 24? Et pourtant. On fait les mitzvot quand même, non? Ben on a un problème des mounins. C'est ça notre problème. Tu comprends ce que je veux te dire?
Donc, il y a une partie des mitzvot qui donne à manger à l'échama et l'autre côté, il y a la émouna qui donne
c'est parce
aussi,
que
c'est
tu
un
ne...
élément alimentaire,
c'est le problème, il est facile. les mitzvot et la Torah et tout ça, oui, c'est pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais souvent, on fait les choses par habitude. On est comme des robots. Si tu ne fais pas... Alors, allez-nous par contrainte. Oui, ça peut. Ça peut. Elle a raison. Elle a raison. Elle a raison. C'est vrai. Souvent, tu as des fois des enfants, ils font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ok. Écoute-moi. Mais, si tu n'as pas fait le travail de l'intérieur, d'accord ? Alors, automatiquement, tu ne peux pas avoir l'aïmouna. Et le travail de l'intérieur, il commence où ? À partir du moment où tu vas parler avec Hachem. Ta prise en charge chez Akadosh Baruch Hu, elle commence à partir du moment où tu vas parler avec Hachem. Et comprends bien une chose. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas être mévater. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu es venu dans ce monde maintenant pour ramener l'aïmouna, pour développer l'aïmouna. Alors, il va te faire passer par toutes sortes de tribulations que toi, maintenant, tu vas dire, mais j'en veux plus, j'ai que des galères, j'ai des machins. Mais non ! C'est un bisou qui te fait HM. Vraiment, t'as pas les yeux pour voir. Pourquoi ? Parce que tu vas passer par tout ça pour à la fin arriver à lever tes yeux vers lui et parler avec lui. C'est ça ta finalité.
Maintenant, il y a des astuces pour arriver à l'égo des doutes quotidiennes parce qu'il y a un guide Serrara terrible pour... Où sont les astuces ?
Je suis d'accord avec toi. Il y a un Yetzerara, pourquoi ? Parce que toute ta Géoula, toute la délivrance du Ham Israël, elle va venir justement de Taïd Bodedout. Celles qui ont reçu le feuillet cette semaine, et qui ont, le vendredi, et qui ont pris la peine de le lire, d'accord ? Celles qui n'ont pas pris, ben, tant pis pour vous. Eh bien, il y avait la réponse à tout ça justement. Ça veut dire que... Hein ? T'as pas d'email, t'as raison. C'est là qu'à votre dard.
Bon, non plus. Ah non, non, c'est pas par cachot.
Ah.
Par handicap.
Écoute-moi. Écoute-moi une chose. Écoute-moi une chose. Il y a une yann, c'est que toutes les guerres que nous vivons, toutes les guerres intérieures que nous vivons, d'accord ? Celles qui reçoivent le feuillet Bémet, ouvrez-le, vous allez voir, parce que c'est extraordinaire comme en plus Hachem, il m'a donné à faire la relation. Hein ? Tu sais quoi, j'aimerais bien. Mais si tu sais, on est débordé de travail. Et c'est toute ma faute en plus. Ouais. C'est vrai, normalement, on envoie le jeudi.
Ouais. Un trimestre pour Shabbat. Ouais.
T'attends samedi soir, c'est pas grave.
Ouais. Je vais te dire une chose. Non, mais le Emet. On aimerait bien, mais à chaque fois, il faut payer pour ça. Alors, on n'a pas toujours des dons pour faire la truc. Mais tu peux l'imprimer dans ton imprimante et le mettre dans la synagogue. Il y en a qui font ça à Paris. Elles l'impriment et elles le mettent dans leur synagogue. On a essayé Bémet, mais le problème c'est un, on n'avait pas assez d'argent à chaque fois toutes les semaines parce que on veut le faire joliment. Il faut et puis non, le diffuser on avait, mais c'était un problème de fou en fait. Mais écoute, c'est vrai qu'on devait normalement à la base on l'envoyait le jeudi, mais c'est de ma faute. Je sais plus où mettre ma tête et j'ai pas le temps et souvent je le fais. Tu sais quoi, la nuit et la fille le matin, la pauvre elle doit se travailler. Bon bref. En tout cas, ouvrez le, celles qui ont reçu, ouvrez-le, vous allez voir, il y a la réponse même à la guerre que nous vivons ici. Et en réalité, la guerre que nous vivons ici, c'est la guerre qu'il y a eu avant, et encore avant, et encore avant. Toutes les guerres, d'où elles viennent des luttes intérieures que nous avons en nous. Regardez Korach avec sa femme. Comment on est arrivé à la guerre avec Moshe Rabbeinu, d'accord, et tous ces peuples, tous ces gens qui... Parce que justement... La femme de Korach, elle avait une lutte intérieure, elle n'a pas fait le travail intérieur. Attends, la femme de Korach, elle n'avait pas l'aïmouna. Et Korach, il n'avait pas l'aïmouna. Il n'y avait pas de travail intérieur, il n'y avait pas d'Ibo des doutes. Il n'avait pas parlé avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu cette sikha avec Boré Olam. Tu comprends ce que je veux te dire ? Donc, quand maintenant toi, tu peux avoir maintenant les apparences, tu peux tout avoir. Si tu ne parles pas avec Hachem, tu ne peux pas arriver à avoir la vraie Emouna. Parce que justement, le Yetzer Hara, il va t'avoir. Donc maintenant, c'est sûr. Comme maintenant, on comprend que toute la Géoula, d'accord, c'est-à-dire que toute la délivrance du monde, mais de nous-mêmes, d'accord, la Géoula, la délivrance privée, elle va passer par l'Aïdbo des doutes. C'est clair que tu vas avoir un Yetzer Hara. Je t'explique une chose. Fais-le comme un rendez-vous. Écoutez bien, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. D'accord ? Prenez rendez-vous avec Hachem tous les jours, comme si tu vas chez ton psy. Tu vas chez ton psy, tu ne vas pas rater le rendez-vous, tu as un rendez-vous. À l'avance, tu dis, voilà, aujourd'hui, celles qui ont son psy, ton coiffeur, ton truc, ton esthéticien, tu as un rendez-vous une fois dans ta vie au moins. Tu ne la rates pas. Bon.
Alors,
hein, ben oui, c'est tous les... Ben ouais, mais tu sais quoi, quand tu vas commencer à goûter à ce rendez-vous, je te promets, tu ne vas plus pouvoir, parce que tu ne vas pas rater, parce que tu vas te sentir paumé après.
Toujours facile.
Même 5 minutes. Tu fixes, tu dis, bon voilà, moi je sais que dans ma journée, ou dans ma soirée, de telle heure à telle heure, 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, chacune ce qu'elle peut, un quart d'heure, une heure, chacune ce qu'elle peut, tu fixes dans ton téléphone, tac, j'ai rendez-vous. C'est dans ton yoman, et tu as la sonnerie. À cette heure-là, tu te prévois à ce moment, et même si tu as le téléphone, ta belle-mère, ta mère, non mais tout le monde, non mais c'est sûr, tu vas avoir un truc, ta belle-mère, ta mère, ta soeur, ta copine, ton truc, tu sais quoi, le loto.
Ah non.
Même le loto.
Le mari.
Le mari, tu le prends, tu dis, chérie, je te rappelle, c'est le moment où je vais construire. Je vais gagner beaucoup d'argent. Donc, n'importe quoi à ce moment-là, c'est-à-dire chacune, elle aura, d'accord, son épreuve. Tu dis, non, je ne vais pas me laisser avoir. Ça va attendre 2 minutes. Parce que c'est bon. D'accord ? Le cimetière des irremplaçables est encore vide, figurez-vous. Donc, ce n'est pas grave si tu as fait un petit décalage, tu vois, de 2 minutes. Vous prenez sur vous tous les jours. 2 minutes, 1 minute, commencez à parler avec Hachem. Même si au début, vous êtes muet, c'est pas grave. Ça aussi, c'est la volonté d'Hachem. Voilà. C'est tous les jours, la Hatmada, encore et encore. Et c'est comme dans votre couple, c'est la même histoire. Investissez tous les jours. Même si vous n'arrivez pas, même si vous voyez que c'est difficile, même si... Et le plus souvent, le problème, il vient parce qu'au niveau des relations, d'accord, intimes avec le mari, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à ce que ça se passe bien. On n'arrive pas à prendre du plaisir. On n'arrive pas à comprendre la langue, le langage du corps de l'autre, parce qu'en réalité, c'est un langage aussi, d'accord. Et qu'on voit que ça ne marche pas, n'abandonnez pas. Encore essayez et encore priez. Même ça, il faut prier Hachem. Hachem, fasse que j'ai du plaisir avec mon mari. Fasse que je vais avoir du plaisir, parce que, encore une fois, si tu n'as pas de plaisir, à un moment donné, tu vas dire « j'en ai marre ». Tu comprends? Fasse que mon mari va savoir comment me caresser. Fasse que mon mari va savoir comment me toucher, où me toucher. Et fasse que j'ai envie, bien sûr, parce que des fois, tu n'as pas l'envie. Fasse que j'ai envie d'aller vers mon mari. Et fasse que mon mari aussi a envie d'aller vers moi. Que mon mari aussi va prendre son plaisir. Il faut prier. Alors, tu vas me dire, oh, mais de quoi elle parle, celle-là? Je vais parler de ça à Hachem? Mais je suis folle, moi. Je vais aller dire à Hachem, j'ai envie d'avoir un plaisir sexuel. J'ai envie de m'éclater. Écoute-moi bien. D'où on le sait? Quand la fille de Rabbi Nachman, elle s'est bagarrée avec sa femme de ménage, Rabbi Nachman, il est venu lui dire quoi? Il était là comme par hasard, mais c'est pas un hasard. Il lui a dit, chérie, tu sais pourquoi tu t'es bagarrée avec ta femme de ménage et pourquoi tu en as marre d'elle et qu'elle fait pas ce comme tu veux? Parce que quand tu étais sous la choupa, tu n'as pas prié pour avoir une bonne femme de ménage qui te comprend et qui est là pour te soutenir. Regarde! Alors si tu dois prier sous la choupa pour la femme de ménage, tu vas pas prier pour le principal qui est ta vie sexuelle? Que c'est à partir de là maintenant que tu vas construire ta maison?
Mais les gens, ils ne savaient pas ça au mariage.
Ben
là,
oui.
Ils ont 20 ans, 15 ans.
Et ben c'est pas grave, maintenant on va commencer.
Bon, alors on refait la coupe. Hein.
Mieux vaut tard que jamais.
Je peux dire quelque chose par rapport à ces enseignements?
Oui.
Tu m'as appris, et ben, au prochain, je l'ai fait, ça tient.
C'est les enseignements de Rabbeinu, c'est pas moi.
Quand tu dis qu'il faut la tefila, d'accord? Donc on se renforce en tefila. Donc après, tu es plus branché avec Dieu.
Ouais.
Quand tu as plus un kécher. Quand tu prends sur toi de faire des bonnes choses, par exemple, t'as dit, exemple, que toi, tu prends sur toi d'être super sympa avec ton mari.
Ouais.
Alva,
il amène des ratachem que je sois sympa avec lui.
Le mari lui fait la tête, il n'est pas dans son trip. Toi, tu dis, ah chérie, comment ça va? Je prépare à manger et tout ça. Eh bien, le fait que j'ai...
Regarde comment elle est conditionnée. Chérie, je te prépare à manger. Fais-lui un bisou d'abord, prends-le dans les bras, fais-lui un peu tout ce qu'il a besoin.
Ne t'inquiète pas,
non, mais elles n'ont peut-être pas ce rituel, elles. Attends, elles n'ont peut-être pas le rituel, les copines.
Mais tu sais, je suis restée branchée avec Dieu. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'ai dit, quoi qu'il me dise, quoi qu'il fasse, c'est pas sa réponse qui va marcher. C'est ce que moi, j'ai envie de faire avec lui.
Bien sûr.
Et là, ça a marché. Parce que du fait qu'il m'ait dit, ben, ouais, stop. Non,
non. Mais écoute-moi, écoute-moi.
Et lui, il a pu avoir le temps de changer.
Idiot. Allez, tu as fait. Eh ben, doucement, doucement. Ah oui, ça marche ce que je te dis. Ça marche puisque c'est écrit. Bah, je l'ai pas inventé, hein.
J'ai pris sur moi, ça m'a aidé.
Ça faut penser. Faut penser.
Attends, elle a une question, les copines. Les copines, vas-y.
J'ai une question par rapport à... Tu as dit tout à l'heure, on parlait de fumée, choses comme ça. Donc, en fait, en gros, tu as dit que les mauvaises amidotes, mais les traits caractéristiques, objectivement, ne sont pas bien. Quoi. Même si on se place dans le côté de l'univers, où il faut des joints, où il faut des pires, où c'est moins grave. Mais si on trouve ça grave par rapport à notre communication...
Tu as pris conscience.
C'est une question, parce qu'on a pris conscience.
Oui. Moi j'ai une copine, Elodie. Elle me dit, je préfère, parce qu'elle elle m'a dit, je sais que si j'arrête de fumer, je vais grossir. Elle me dit, je préfère mourir mince que mourir grand. Parce qu'elle avait arrêté de fumer. Moi, je préfère mourir mince.
C'était remis direct.
Ou alors.
Alors, donc, en fait, en gros, pour faire arrêter son mari,
bien sûr. Écoute une chose, regarde, je vais te dire, on le répétera jamais assez. Jamais, jamais, jamais tu obtiendras rien de durable par la force.
Non, pas par la force.
Gentiment. Tu sais quoi, gentiment, des paroles douces, des paroles d'amour. Tu comprends même ta kavana, il faut que ce soit une kavana d'amour. Tu comprends ce que je veux te dire? Comment tu veux ramener, par exemple, quelqu'un qui est loin de la Torah, d'accord, si tu ne l'aimes pas d'abord? Tu dois aimer ton prochain, et ça c'est le cours de la semaine dernière que j'étais pas là, mais si Dieu veut, il sera en ligne. D'abord, s'aimer soi-même. Tu comprends, faire le shalom avec soi-même pour faire le shalom avec les autres, Bezrat Hashem. Donc oui, toujours par la gentillesse, toujours avec des paroles douces, toujours avec des paroles réconfortantes, tu comprends? Et doucement, doucement, c'est vrai que tu n'auras pas un résultat tout de suite. C'est comme elle a dit tout à l'heure, salut chérie, je t'ai fait à manger. Tu n'auras peut-être pas le résultat tout de suite, mais c'est pas grave. Toi maintenant, en réalité, tu le fais les mains Hashem. Tu le fais parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de faire du shalom avec nos maris. Point. C'est un Avodat Hashem.
Il faut déjà avoir le niveau de faire plusieurs fois bonjour chérie avec le sourire en ayant un.
Oui. Si on le fait, et comment tu vas avoir ce niveau? Comment tu vas avoir cette force? En priant, justement, quand tous les jours.
Si on arrive et on croit qu'il nous l'a déjà donné, on essaye et on se plante.
Écoute-moi, dis-toi que ton mari, en réalité, Hachem, il t'a donné ce mari.
Je ne vais pas forcément rester dans la réaction de
mari. Oui, oui, le mari, les gosses, le machin, tout le monde, écoute-moi.
Quand on essaie de faire quelque chose,
écoute-moi.
Et qu'on se dit, bon, ok, je vais le faire comme ça, mais que du coup, on n'a pas le résultat et ce qu'on fait tout de suite, donc pour un régime. Combien de fois
je suis d'accord avec toi.
Il y a plein de meufs qui ne vont pas faire d'efforts à voir, faire beaucoup d'efforts pas à voir. C'est la preuve tangible que les efforts n'ont rien à voir avec les résultats.
Écoute-moi, je vais te dire, alors là, tu parles de régime. Tu parles de régime, je vais te donner tout de suite le truc. Écoute-moi bien. Moi, j'étais quelqu'un, écoute, moi, j'ai jamais réussi à faire un régime de ma vie. Alors, tu me dis le mot régime, je me sens mal. D'accord? Et j'avais toujours, ouais, comme toutes les femmes, on a nos petits kilos, chacune a son truc. Ok. Jusqu'à qu'un jour, j'en pouvais plus. Parce que j'avais beaucoup grossi, j'étais pas bien, j'avais perdu ma mère, Zichrona Livracha, bon, la galère. Et un jour, j'ai dit non. J'ai dit Hachem. J'ai commencé et j'ai compris. C'est la première fois de ma vie. J'ai prié Hachem pour le régime. J'ai dit Hachem, je t'en supplie. Sans toi, je vais pas y arriver. Il faut que tu m'aides à régler ce problème. Je ne peux plus supporter. Mais j'y arrive pas. Ça veut dire, j'ai tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai commencé Bémet à prier tous les jours, tous les jours, tous les jours. Jusqu'à qu'un jour, je me suis levée, j'ai eu la Janana qui m'est venue. D'accord? Ça veut dire c'était fini. Je te promets, j'ai fait un régime. Baruch HaShem, ça fait maintenant 3 ans, même plus, je crois. Ok? Bon, draconien, 40 jours, mais. 40 jours. Ouais, 40 jours, mais je me suis dit, écoute, moi je suis pour rapide, voilà, moi j'ai besoin un peu du, tu vois. 40 jours, un petit spray, comme il faut et tout ça, j'ai perdu. Et bah, au Hachem, tu vois, là, j'ai 3 petits kilos en plus, mais parce que j'ai le mariage du fils, mais ça va passer. Depuis, j'ai compris. Même mon régime, je ne pourrais pas l'avoir si je ne prie pas. Donc, même avec mon mari. Si maintenant, moi, je comprends, d'accord, qu'en réalité, mon mari, c'est ce qu'il y a de meilleur que j'ai reçu pour moi, pour pouvoir me faire avancer dans ma vie, pour pouvoir travailler, d'accord, mes midot. Donc, je comprends qu'en réalité, mon mari, c'est un instrument d'Hachem. Donc, je ne vais pas commencer à m'énerver avec mon mari à dire « Ouais, t'es un bidon et t'es pas là et j'ai marre et je baisse les bras. » Je vais chez Hachem. Tu comprends ce que je veux te dire, comment ça fonctionne? Ton mari, c'est un instrument, comprenez bien. Le mari qu'on a reçu, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est vrai qu'il n'est pas parfait. Nous non plus. Mais pour nous, par rapport à notre essence, par rapport à notre réparation, par rapport à tout ce que tu veux, c'est ce qu'Hachem, il a été, il a décidé pour nous. Et on doit faire avec. Si tu as cette émouna, et regarde, à chaque fois, on revient toujours à ce même truc. Si tu as cet émouna-là, si tu gardes justement ce contact avec Akadosh Baruch Hu, et que tout ce que tu fais en fin de compte, d'accord, c'est les Ma'an Hashem. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ton Avodat Hashem, ton Shalom Bait, c'est ton Avodat Hashem. Ne te laisse pas, d'accord, perturber dans l'esprit par le Yetzer Hara qui va lui t'éloigner en réalité de ton travail principal.
À résister à l'attaque ou à que ce soit, non mais par exemple soit quand on ouvre la porte, si on est sympathique et qu'il n'est pas sympathique, est-ce qu'il faut commencer à faire l'effort quand on se sent prête d'assumer, même si le reste n'est pas là, que ce soit dans un régime avec son mari, dans son travail, dans sa chouette, dans n'importe quoi. Est-ce qu'il faut commencer quand on est prêt, en ayant le sentiment d'avoir déjà travaillé ses méthodes pour le faire vraiment, ou on le fait, c'est pas grave, on se prend des claques et puis on...
Tu le fais, tu vas te prendre des claques, tu vas continuer à prier jusqu'à que bassof les choses elles vont changer. Tu le fais. Naase venishma. Quand on a reçu la Torah, c'est ce qu'on a dit. On va faire et on va comprendre. Donc moi, Hachem m'a demandé de remplir un rôle. Tu comprends? Tu as un job. Être sympa avec ton mari, c'est ton job. 24h/24. Ok, tu le fais. Maintenant, est-ce que tu vas recevoir le salaire tout de suite, machin? C'est pas grave. Toi, tu as fait l'effort en tout cas. Tu comprends ce que je veux dire? Clapé Hachem, clapé Shamaïm, personne ne pourra venir te dire quoi que ce soit.
C'est moins grave d'essayer de faire l'effort et du coup de faire une avéra en réagissant mal au deuxième round, plutôt que de ne pas le faire et de ne pas faire d'avéra en réagissant mal. C'est ça la question.
Et là, par exemple, c'est trop fort pour moi ça. Qu'est-ce que tu as dit, excuse-moi?
Je veux dire, pour revenir à l'exemple simple des trucs. Le mari, on me l'aborde, je vais le sourire, voilà. Et je me suis préparée pour dire c'est pas grave, même s'il ne sourit pas, je vais continuer à être sympathique.
D'accord.
Bon, on n'a pas réussi, on a envoyé la poêle dans la figure. Qu'est-ce qu'on fait? On a fait une avéra, c'est pas bien de frapper son mari. Alors, il valait mieux que je ne fasse pas le sourire parce que je ne suis pas prête, je sais que je vais envoyer la poêle.
Il faut être aimé,
ou il vaut mieux se dire c'est pas grave, j'envoie une poêle, c'est une avéra, mais cette avéra va me permettre.
D'abord tu as dit bonjour. Attends, écoute-moi. D'abord tu as dit bonjour. Écoute-moi. D'abord.
La question c'est, il vaut mieux commencer ma mitzvah, quitte à faire une grosse avéra derrière, ou pour ne pas faire d'avéra, tant que je sais que je vais faire des avéras en essayant ça, je ne le fais pas, je me travaille bien, et quand je me sens forte pour ne pas faire d'avéra.
Ça c'est lié Tirara, je vais te dire pourquoi. Parce que d'abord, écoute-moi, mitzvah, goreret mitzvah. Ve'avera, goreret avera. Une mitzvah en entraîne une autre, et une avera, elle en entraîne une autre. Donc, toi maintenant, avec tout le kavod que j'ai pour toi, tu n'es pas un kadosh baruch hu. Le fait que tu vas dire bonjour chérie, c'est une mitzvah. Est-ce que tu sais, toi, maintenant, ce qu'Hachem il a prévu pour toi? T'en sais rien. Tu comprends? Comprends! Ça se trouve, toi, tu avais la poêle dans la main, tu as dit, bon, attends, bonjour chérie. Et puis ton mari, il avait une réaction tellement sympathique, tu lâches la poêle. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, ne te pose pas de questions. Ça, c'est Yeterara. Fais la chose. Tu vois? Si maintenant, par exemple, écoute, si maintenant tu as l'occasion de faire Netilat Yadaim avant de manger le pain, les copines, tu as, disons maintenant, tu vas prendre sur toi, d'accord, de faire une petite mitzvah, de dire, je vais faire Netilat Yadaim avant de manger le pain. Mais on sait qu'il y a Birkat Amazon. C'est pas grave, ne fais pas Birkat Amazon. Fais déjà Netilat. Peut-être un jour tu arriveras.
Je vais vous donner un exemple. Vous n'allez même pas comprendre. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un truc comme ça, on fait des petits trucs comme ça. On en fait des petits trucs en général.
Ben oui, c'est ça. Il vaut mieux commencer par petit.
Mais ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, je me dis, bon, je sais pas si je vais faire, mais c'est pas si facile avec le lien, etc. En fait, quand on le fait, on lâche pas. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, on se dit, c'est bon.
Exactement. C'est ça. C'est ça. Tu as fait un effort. Eh bien, Bezrat Hachem, cet effort-là, il va t'amener vers autre chose. Tu comprends? Comprends une chose. Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un tyran. Il n'est pas en train de... Lui, ce qu'il veut, c'est que tu fasses un effort. Tu fais l'effort, t'inquiète pas, laisse le faire après. Ça veut dire, reste petite. Rappelez-vous, Ktana Ani. Reste petite, sache rester à ta place. N'essaye pas de prendre la place, d'accord, de quelqu'un d'autre. Toi, on t'a dit, Véronique, dis bonjour chérie. D'accord, voilà. Après, tu comprends, Hachem, il te dira, moi, tu m'as dit de dire bonjour chérie, j'ai fait ce que tu m'as dit, Hachem. C'est tout, les résultats, on s'en fout. T'as fait ce qu'il y avait.
J'ai fait un cours, une fois qu'elle a dit bonjour chérie, quand elle a ouvert la porte, et puis il lui a répondu, tu es plus belle que ma mère.
Plus belle que ma mère.
Je te crois pas. C'est beau ça. Ah ouais, pourquoi? Mais attends, tu sais que est-ce qu'il y a plus beau qu'une maman? Est-ce qu'il y a plus beau qu'une maman pour un garçon?
Est-ce qu'il y a pire pour une femme que de se sentir? Le problème de la femme et de la mère, c'est quoi? C'est qu'on veut toutes les deux le même homme. et que toutes les deux on veut notre place, c'est-à-dire que nous,
normalement, tu ne devrais pas manger de lait de ta mère, donc c'est que t'es bon, tu l'as dans la poche.
Mais non, mais justement, ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est que ta mère est tellement importante que t'oses lui dire ça maintenant.
Oui, si tu es en conflit avec toi-même, si tu es en conflit avec toi-même et que tu n'as pas ta place, tu sais, moi, quand j'ai marié mon fils là, la semaine dernière, après j'ai eu ma belle-mère au téléphone qui n'a pas pu venir, la pauvre. Alors je lui dis, ça va, mamie, machin. Alors elle me dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Bon, j'ai des très bons rapports avec ma belle-mère, bon, Hachem. Alors, non, je suis belle-mère. Je lui ai dit, parce que je lui ai dit, je suis déjà belle-mère, j'ai des gendres. Alors, non, parce que je lui ai dit, non, tu sais, voilà. Je lui ai dit, tu sais, ça y est. Je lui ai dit, tu sais, ça y est, mamie, je suis comme toi, elle est avec des garçons. Je lui ai dit, ça y est, maintenant, je suis comme toi, je suis belle-mère. Alors elle me dit, dis-moi, j'ai une question à te poser. Alors j'ai dit quoi? Elle m'a dit, tu n'as pas le lendemain matin, quand tu t'es levée, senti ton cœur comme ça déchiré, qu'on t'a pris ton fils? Alors, moi, je lui ai dit, tu sais quoi? Pas du tout. Je lui ai dit, mais toi, tu l'as eu. Je lui ai dit, c'est pour ça qu'au début, tu t'es senti mal, il y a eu des conflits. Je lui ai dit, non, j'ai pas ça. Je lui ai dit, parce que chacun sa place. Tu comprends? Et quand mon fils, maintenant, il m'appelle, samedi soir, il m'a appelé. Maman, si tu vois ma femme. Alors, écoute, vous allez maintenant rigoler, hein. Vous allez rigoler. Premier Shabbat. Maman, si tu vois ma femme. Il me dit comme ça, il fait. Le manger qu'elle m'a fait, il m'a dit, qu'est-ce que c'est cette fina? Et qu'est-ce que c'est ce couscous? Et c'était trop bon. Il me dit, et lui, chez Trahil, maman, j'ai l'impression qu'il a été écrit pour elle. Et moi, attends. Et moi, dans mon cœur, je dis, ah, c'est bien, chérie. Alors, écoute bien, je dis, mais chérie, j'espère que ta femme, elle se fatigue pas trop. Tu fais attention. Pas du tout, maman. J'ai balayé. J'ai fait la sponja. Moi, dans mon cœur, je me dis, regarde, ce que moi, j'ai pas réussi. En 25 ans, elle en une semaine, elle a déjà réglé. Attends, et je rigole. Après, je lui dis, mais chérie, j'espère qu'elle a pas trop cuisiné ta femme, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait baltacherie. Mais pas du tout, maman. On va manger les restes toute la semaine. Et moi, dans mon cœur, je dis, toi, jamais un dimanche, tu m'as fait le cadeau.